Jules Verne, César Cascabel, deuxième partie, chapitre 6, Hivernage. Telle était la situation de Monsieur Serge et de ses compagnons de voyage à la date du 1er janvier 1868. Déjà très alarmante par cela qu'ils étaient prisonniers des Néo-Sibériens de l'archipel Liakhov, elle se compliquait encore de la présence d'Ortik et de Kirchhoff. Qui sait si ces deux scélérats ne chercheraient pas à tirer profit de cette rencontre si inattendue? Heureusement, ils ignoraient que le voyageur, attaqué par eux sur la frontière alaskienne, fut le comte Narkin, un condamné politique évadé de la forteresse d'Iakoutsk, que M. Serge fut ce fugitif qui cherchait à rentrer en Russie en se mêlant au personnel d'une troupe foraine. S'il l'avait su, il n'aurait certainement pas hésité à se servir de ce secret, à faire du chantage vis-à-vis du comte Narkin, à le livrer même aux autorités moscovites, en échange d'une grâce ou d'une prime consentie en leur faveur. Mais ne pouvait-on craindre que le hasard révélât un secret dont les époux Cascabel avaient seule connaissance? Du reste, Ortik et Kirchhoff continuaient à vivre isolément, bien qu'ils fussent très décidés, le cas échéant, à joindre leurs efforts à ceux de M. Serge pour recouvrer leur liberté. Ce qui n'était que trop évident, c'est qu'il n'y avait rien à tenter pendant cette période hivernale de l'année polaire. Le froid était devenu excessif au point que l'air humide, rejeté par la respiration, se transformait en neige. Le thermomètre descendait parfois à 40 degrés au-dessous de 0 centigrade. Même avec des temps calmes, il aurait été impossible de supporter une telle température. Cornelia et Napoléon n'osaient plus sortir de la belle roulotte, et, d'ailleurs, on les en eût empêchés. Aussi, combien ces journées sans soleil, ou plutôt ces nuits de près de 24 heures, leur paraissaient interminables. Cayette, il est vrai, habitué aux hivers du Nord-Amérique, ne craignait pas de braver le froid du dehors. C'est également ce que faisaient les femmes indigènes. Elles vaquaient à leurs travaux habituels, vêtues d'une double robe de peau de renne, enveloppées du palsque de fourrure, chaussées de bas en pelleterie et de mocassins en cuir de phoque, coiffé d'un bonnet garni de peau de chien. On ne leur voyait même pas le bout du nez, ce qui n'était pas à regretter, semblait-il. Monsieur Serge, Monsieur Cascabel, ses deux fils et Clou de Girofle, étroitement serrés dans leur fourrure, faisaient quotidiennement la visite obligatoire à Tchouchouk, ainsi que les deux matelots russes auxquels on avait procuré de chaudes couvertures. En somme, les habitants de la Nouvelle-Sibérie n'hésitent point à sortir quelque temps qu'ils fassent. Ils chassent à la surface des longues plaines durcies par le froid, se désaltérant de neige, se nourrissant de la chair des animaux qu'ils tuent en route. Leurs traîneaux, très légers, fabriqués avec les maxillaires, les côtes et les fanons de baleine, sont montés sur des patins ou raquettes qu'ils garnissent d'une couche de glace en les arrosant au moment du départ. Ils ont pour attelage des équipages de rennes qui leur rendent d'excellents services. Quant à leurs chiens, de race samoyède, ils ressemblent à des loups dont ils ont d'ailleurs la férocité. Ils sont hauts sur pattes et doublés d'une épaisse fourrure noire et blanche ou jaune et brune. Lorsque les néo-sibériens voyagent à pied, ils chaussent la longue raquette, le ski, autrement dit le patin à neige, avec lequel ils franchissent rapidement de vastes espaces sur le bord des détroits qui séparent les diverses îles de l'archipel, en suivant les toundras, bande de terre le plus ordinairement formée sur la lisière des rivages arctiques. Les indigènes des Liakhov sont très inférieurs aux Esquimaux de l'Amérique septentrionale pour la fabrication des armes. Arcs et flèches, voilà tout ce qui constitue leur arsenal offensif et défensif. Pour engins de pêche, ils possèdent des harpons, avec lesquels ils attaquent la baleine, et des filets qu'ils tendent sous les grundis, sorte de glace de fond où les phoques se laissent prendre. Ils font aussi usage de lances et de couteaux dans leur lutte contre les morses, ce qui n'est pas sans quelque danger car ces animaux sont des mammifères redoutables. mais le fauve dont ils ont surtout à appréhender la rencontre ou l'attaque, c'est l'ours blanc, que les froids intenses de l'hiver, la nécessité de se procurer un peu de nourriture après de longs jours de jeûne, poussent quelquefois jusqu'au village de l'archipel. Il faut le reconnaître, là ces indigènes font preuve de bravoure. Ils ne fuient pas devant le puissant animal dont l'abstinence accroît la férocité, ils se jettent sur lui, résolument, le couteau à la main, et la lutte finit le plus souvent à leur avantage. À plusieurs reprises, en effet, la famille Cascabel fut témoin d'une agression de ce genre, dans laquelle l'ours polaire, après avoir grièvement blessé plusieurs hommes, ne tarda pas à succomber sous le nombre. Toute la tribu accourut alors, et le village fut en fête. Quelle aubaine que cette chair d'ours, excellente, paraît-il, pour des estomacs sibériens. Les meilleurs morceaux allèrent, comme de juste, figurer sur la table ou plutôt dans l'écuelle de Tchoutchouk. Quant à ces très humbles sujets, ils eurent chacun une petite part de ce qu'il voulut bien leur laisser. De là, une occasion de se livrer à des libations prolongées qui amenèrent l'ivresse générale, ivresse produite par l'absorption d'une liqueur composée avec les jeunes pousses de salix et de rhodiola, les sucs de l'airelle rouge et ces baies jaunes de marais dont on fait une abondante récolte pendant les quelques semaines de la saison chaude. En réalité, les ours sont rares dans ces archipels, et il n'y a pas à compter sur ce gibier, dont la capture ne laisse pas d'être fort périlleuse. Aussi la viande de renne forme-t-elle le fond de l'alimentation indigène, et les femmes préparent avec le sang de l'animal une soupe qui n'excita jamais chez les cascabelles qu'une invincible répugnance. Si l'on demande comment les rennes peuvent vivre pendant l'hiver, on répondra simplement que ces animaux ne sont point gênés de découvrir leur nourriture végétale, même sous l'épaisse couche des neiges. D'ailleurs, d'énormes provisions de fourrage seront récoltées avant les premiers froids, et cela suffit à l'alimentation des milliers de ruminants que renferment les territoires de la Nouvelle-Sibérie.
Des milliers ! Et dire qu'une vingtaine sans plus ferait si bien notre affaire !
Répétait M. Cascabel, en se demandant de quelle façon il parviendrait à remplacer son attelage. Il est à propos ici d'insister sur ce fait que les habitants des îles Yakov sont non seulement idolâtres, mais extrêmement superstitieux, qu'ils rapportent tout à leur divinité et obéissent en aveugle aux idoles fabriquées de leurs propres mains. Cette idolâtrie passe toute croyance et, entre tous, le grand chef Tchoutchouk pratiquait sa religion avec un fanatisme que ses sujets partageaient volontiers. Chaque jour, Tchoutchouk se rendait à une sorte de temple, ou plutôt de lieu sacré, nommé le Vorspuk, c'est-à-dire la grotte aux prières. Les divinités, représentées par de simples poteaux de bois peinturlurés, étaient rangées au fond d'une excavation rocheuse dans laquelle les indigènes se prosternaient tour à tour. Il ne poussait point l'intolérance jusqu'à interdire aux étrangers de s'approcher du Vorspuk. Au contraire, il les invitait à venir. Aussi, M. Serge et ses compagnons purent-ils satisfaire leur curiosité en visitant les idoles néo-sibériennes. À l'extrémité de chacun de ces poteaux grimaçaient de hideuses têtes de volatiles, yeux ronds et rouges, becs formidables largement ouverts, crêtes osseuses qui se recourbaient en cornes. Les fidèles venaient s'étendre au pied de ces poteaux, ils y collaient leurs oreilles, ils faisaient leurs prières, et bien que le Dieu ne leur eût jamais répondu, ils s'en allaient avec la persuasion d'avoir entendu sa réponse, réponse généralement conforme à la secrète pensée de l'adorateur. Lorsqu'il s'agissait d'une question relative à quelque nouveau tribut que Tchoutchouk voulait imposer à ses sujets, ce roublard ne manquait pas d'obtenir l'approbation céleste, et pas un de ses sujets n'eût résisté à un ordre venu de si haut. Un jour de chaque semaine, il y avait une cérémonie religieuse plus importante, en ce sens que les indigènes s'y rendaient en grande pompe. Qu'il fît un froid intense, que le chasse-neige se déchaînât avec une violence de coups de faux lancés au ras du sol, personne n'hésitait à suivre Tchoutchouk au Vorspuk. Et depuis l'arrivée de la belle roulotte, sait-on comment hommes et femmes s'accoutraient pour ces solennités? Avec les oripeaux volés à la famille, qu'ils portaient par-dessus leurs vêtements, les maillots d'étain de M. Cascabel, les jupes défraîchies de Cornelia, les casaques de leurs enfants, le casque à panache de Clou de Girofle. Et le piston dans lequel l'un soufflait à perdre haleine, le trombone dont l'autre tirait des sons invraisemblables, et le tambour, la grosse caisse, tous ces instruments d'un orchestre forain qui contribuaient par leur assourdissant vacarme à l'éclat de la fête. C'est alors que M. Cascabel hurlait contre ces coquins, contre ces voleurs qui se permettaient d'user ses costumes, qui risquaient de désarticuler son trombone, de fausser son piston, de crever sa grosse caisse. « Canaille, canaille » répétait-il, et M. Serge lui-même ne parvenait pas à le calmer. En se prolongeant de la sorte, la situation commençait à devenir énervante, tant s'écoulaient lentement les jours et les semaines. Et puis, quelle serait la fin de cette aventure, si même elle en avait une ? Toutefois, le temps qui ne pouvait plus être employé aux exercices, et M. Cascabel pensait que son personnel serait singulièrement rouillé quand il arriverait à la foire de Perme, ce temps ne s'écoulait pas sans quelque profit. Dans le but de réagir contre le découragement, M. Serge ne cessait d'intéresser ses auditeurs par ses récits et ses leçons. En revanche, M. Cascabel avait voulu lui apprendre plusieurs tours de passe-passe et d'escamotage pour son plaisir, disait-il. Mais en réalité, cela pourrait servir à M. Serge s'il devait jamais jouer au naturel le rôle de saltimbanque afin de mieux tromper la police moscovite. Quant à Jean, il s'occupait de compléter l'instruction de la jeune indienne. L'élève s'exerçait à lire et à écrire sous la direction de son jeune professeur. Cayette avait une si vive intelligence, et Jean montrait tant de zèle pour la développer. Était-il donc dit que ce brave garçon, si passionné pour l'étude, si heureusement doué, ne serait jamais qu'un pauvre forain, qu'il ne parviendrait pas à s'élever dans l'ordre social? Mais cela, c'était le secret de l'avenir. Et quel avenir était réservé à cette famille? Au pouvoir d'une tribu sauvage, sur les dernières limites du monde connu? En effet, les exigences de Tchouchouk ne paraissaient pas devoir se modifier. Ses prisonniers, il ne les relâcherait point sans rançon, et il ne semblait guère qu'un secours pût leur venir du dehors. Quant à l'argent réclamé par ce rapace souverain d'Eliakov, comment arriverait-on à se le procurer? Il est vrai, les Cascabel possédaient un trésor, sans le savoir. C'était la pépite, la fameuse pépite du jeune Cendre. Du moins, le gamin n'avait aucun doute au sujet de sa valeur. Lorsque personne ne le voyait, il la tirait de sa cachette, il la contemplait, il la frottait, il la polissait. Certes, il n'eut point hésité à la sacrifier pour désintéresser Tchouchouk et racheter sa famille. Mais un morceau d'or, sous cette forme et cette apparence de caillou, jamais le chouchou de son père n'eût voulu l'accepter pour de l'argent comptant. Aussi, Cendre s'en tenait-il à son idée d'attendre le retour en Europe, et là il saurait bien changer sa pépite contre du bon or monnayé qui remplacerait avantageusement les dollars volés en Amérique. Rien de mieux, en somme, si ce retour en Europe pouvait jamais être effectué. Or, il n'y avait pas apparence qu'il fût proche, et c'est bien ce dont se préoccupaient les deux malfaiteurs, que la mauvaise fortune avait jeté sur le chemin de la famille Cascabel. Un jour, 23 janvier, Ortic se présenta à la Belle Roulotte afin de s'entretenir avec M. Serge, Jean et son père à propos de leur rapatriement. En réalité, son but était de savoir ce que les prisonniers comptaient faire pour le cas où Tchouchouk leur permettrait de quitter l'île Kotelny. Et tout d'abord, « Monsieur Serge, demanda-t-il, lorsque vous êtes parti de Port Clarence, votre intention était-elle d'hiverner en Sibérie ?»« Oui, répondit M. Serge. Il était convenu que nous chercherions à atteindre quelques bourgades où nous séjournerions jusqu'à la belle saison. Pourquoi me demandez-vous cela, Ortic ?»« Parce que je désirerais savoir si vous songez à reprendre votre premier itinéraire en admettant que ces maudits indigènes vous rendent la liberté. » Non point, répliqua M. Serge, car ce serait allonger inutilement une route déjà longue. Il serait préférable, suivant moi, de prendre direction sur la frontière russe afin de gagner l'une des passes de l'Oural. Dans le nord de la chaîne, alors? Sans doute, puisque ce serait le chemin le plus court que nous suivrions à travers la steppe. Et votre voiture, monsieur Serge? Reprit Ortic. Est-ce que vous la laisseriez ici? M. Cascabel avait évidemment compris la question, car il se hâta de répondre. « Laisser la belle roulotte ? Non, certes, si je puis me procurer un attelage, et avant peu,
J'espère bien. Avez-vous une idée ? Demanda Monsieur Serge.
Pas l'ombre. Mais Cornelia ne cesse de me répéter qu'il m'en viendra une, et Cornelia ne s'est jamais trompée. Voilà une femme supérieure et qui me connaît bien, Monsieur Serge.
Toujours le même, cet étonnant César Cascabel, toujours confiant dans son étoile et ne pouvant s'imaginer que 4 Français et 3 Russes ne viendraient pas à bout d'un tchou-tchouk.
Monsieur Serge avait fait connaître à Ortic l'opinion de Monsieur Cascabel sur la question de la belle roulotte.
Cependant, pour emmener votre voiture, reprit le matelot russe, qui tenait, paraît-il, à insister sur ce point, il vous faudra un attelage de rennes.
Comme vous dites.
Et vous pensez que Tchouchouk vous le fournira?
Je pense que Monsieur Cascabel trouvera le moyen de l'y obliger.
Et alors vous essayerez de rejoindre la côte sibérienne en traversant l'Icefield?
Parfaitement.
En ce cas, Monsieur Serge, il serait nécessaire de partir avant la débâcle des glaces, c'est-à-dire avant 3 mois.
Évidemment.
Et comment?
Peut-être les indigènes consentiront-ils alors à nous laisser partir?
Je ne le crois pas, puisqu'il est impossible de leur payer rançon.
Monsieur Cascabel, à qui la réponse d'Ortic venait d'être rapportée, répondit aussitôt.
« À moins que ces imbéciles n'y soient forcés. »«
Forcés ? Par qui ? » demanda Jean.
« Par les circonstances. »«
Par les circonstances, père ? » ?»«
Oui, tout est là, les circonstances, mon fils, les circonstances. »
Et il se grattait la tête à s'arracher les cheveux sans parvenir à en extraire une idée.
« Voyons, mes amis, » dit Monsieur Serge, « l'essentiel est de prévoir le cas où les indigènes refuseraient de nous rendre la liberté. Est-ce que nous n'essayerons pas de nous passer de leur consentement ?»«
Nous essayerons, Monsieur Serge, » répondit Jean, « mais nous serons contraints d'abandonner notre belle roulotte. »«
Ne parle pas ainsi, Jean, » s'écria Monsieur Cascabel. Ne parle pas ainsi, tu me brises le cœur.
Réfléchis, père.
Non, la belle roulotte, c'est notre maison qui marche. C'est le toit sous lequel tu aurais pu naître, mon fils. L'abandonner à la merci des amphibides, c'est...
Mon cher Cascabel, reprit Monsieur Serge, nous ferons tout ce qui dépendra de nous pour décider les indigènes à nous rendre la liberté. Mais, comme toutes les probabilités sont pour qu'ils s'y refusent, une évasion sera notre seule ressource. Eh bien, si nous parvenons à tromper la surveillance de Tchouchouk, nous ne pourrons le faire qu'en abandonnant...
La maison des Cascabel !
S'écria le chef de la famille, qui semblait faire rouler les airs, bien qu'il n'y en eût pas un seul dans ces 4 mots.
Père, reprit Jean, il y aurait peut-être un autre moyen de salut qui arrangerait les choses.
Et lequel ?
Pourquoi l'un de nous ne tenterait-il pas de s'enfuir afin de gagner le continent et de prévenir les autorités russes? Monsieur Serge, je m'offre volontiers.
Cela jamais, dit vivement Monsieur Cascabel.
Non, ne le faites pas,
répondit non moins vivement Ortic lorsque Monsieur Serge lui eut fait connaître la proposition de Jean. Monsieur Cascabel et le matelot s'étaient trouvés d'accord à ce sujet. Mais si l'un ne songeait qu'au danger que courait le comte Narkin en ayant affaire à l'administration moscovite, l'autre ne se souciait aucunement de se trouver en présence de ses agents. Du reste, M. Serge répondit en envisageant la proposition de Jean à un autre point de vue.
« Je te reconnais bien là, mon brave garçon, » dit-il, « et je te remercie de l'offre que tu fais de te dévouer pour nous. Mais ton dévouement ne pourrait aboutir. » Vouloir en plein hiver arctique s'aventurer à travers l'Icefield, franchir les 100 lieues qui séparent l'île Kotelny du continent, ce serait folie. Tu périrais en route, mon pauvre garçon.
Non, mes amis, ne nous séparons pas. Et si nous parvenons d'une façon ou d'une autre à quitter l'archipel d'Eliakov, nous le quitterons tous ensemble.
Voilà qui est bien dit, ajouta Monsieur Cascabel. Et je veux que Jean me promette de ne rien entreprendre sans ma permission.
« Je le promets, père. »«
Et quand je dis que nous partirons tous ensemble, » reprit Monsieur Serge, en s'adressant à Ortic, « j'entends par là que Kirchev et vous, vous nous suivrez tous deux. Nous ne vous laisserons pas entre les mains des indigènes. »«
Je vous remercie, Monsieur Serge, » répondit Ortic, « et Kirchev et moi, nous saurons être utiles pendant ce voyage à travers la Sibérie. En ce moment, il n'y a rien à tenter.
mais il importe que nous soyons prêts à fuir avant la débâcle, dès que les grands froids auront cessé. »
Et cela dit, Ortic se retira.
« Oui, reprit alors M. Serge, il faudra être prêt. »
« Nous le serons, affirma M. Cascabel. « Que ferons-nous pour cela? Je veux bien que le loup me croque, si je m'en doute. »
En effet, de quelle façon pourrait-on prendre congé de Tchouchouk, avec ou sans son assentiment? C'était la préoccupation, ou, pour mieux dire, la question à l'ordre du jour. Tromper la vigilance des indigènes, cela était au moins très difficile. Amener Tchouchouk à meilleure composition, il n'y fallait guère compter. Il n'y avait donc qu'un moyen, c'était de le mettre dedans, ainsi que le répétait 20 fois par jour M. Cascabel.
Oui, c'est bien à cela à quoi il s'appliquait. Mais il eut beau se décarcasser la caboche, selon une de ses expressions favorites, le mois de janvier s'acheva sans qu'il eût encore rien trouvé au fond de son sac.